Libre Radio, la radio qui bombe le torse, qui dresse l'antenne et qui émet des phéromones. www.libradio.org. Voilà, les phéromones, la tiédeur, tout ça aujourd'hui, c'est un peu le cas depuis notre petit studio là, plein sud, avec le soleil dans la tête. Alors voilà, nous sommes en compagnie donc de Victorier. Bienvenue à toi, Victorier, on est ravis de te recevoir.
Merci, bonjour.
Bonjour, alors voilà, tu viens pour ce projet d'éco-crèche dont on va parler, mais avant cela, on va peut-être un peu plus te situer. Que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces idées-là? Et pour commencer, eh bien, j'aurais voulu te dire, parce que quand on va sur ton site, dont on va immédiatement donner l'adresse, www.education-durable.eco, eh bien, il y a deux choses qui apparaissent tout de suite. Déjà, c'est une photo avec des petits bonhommes dans l'herbe et des cirés, donc peut-être qu'il pleuvrait. Et il y a une citation, qui est un proverbe suédois, qui est le suivant: « Il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements ». Je trouve assez sympa ce proverbe. Et puis, la mention qui est en bas à gauche, c'est « Éducation durable ». Alors, voudrais-tu déjà te présenter et puis nous expliquer un peu ce que signifie cette notion d'éducation durable.
D'accord. Donc moi, je suis éducatrice et enseignante. Je travaille avec des enfants depuis que j'étais enfant moi-même, donc toute ma vie. Et éducation durable, c'est un terme qui explique en fait où va la seule voie de l'éducation, c'est la voie durable, comme on parle de développement durable. Donc, éducation est très important. Si on veut changer le monde, et on est bien d'accord qu'il faut changer le monde, il faut commencer par les enfants. Donc, ce n'est pas seulement le concept de l'éco-crèche en forêt. Il y a bien plein d'autres choses qui sont en lien avec ce thème, éducation durable.
Tout à fait, tout à fait. Alors justement, si tu es d'accord, on va faire comme ça, on va faire une première partie, on va un petit peu parler de ça, et puis après, la deuxième partie, vraiment, on parlera spécifiquement du projet d'éco-crèche, parce que, comme tu l'as dit, au bout du compte, l'éco-crèche n'est qu'un parmi les outils qui, disons, sont là pour promouvoir et mettre en pratique de l'éducation durable.
Exactement, c'est un des outils, un des beaucoup d'outils. Après, si moi et une petite équipe, on est en train de créer une éco-crèche en forêt, il y a bien beaucoup d'autres acteurs qui participent à ce changement. Donc, dans le développement durable, on parle déjà de l'alimentation, on parle de mobilité, de habitat, mais comme je me suis rendu compte que de l'éducation, on parle très peu, j'aimerais lancer ce débat ici.
Très bien.
Chez vous dans le studio, mais aussi en général dans les débats populaires.
Oui, alors ça tombe bien parce que nous, on est effectivement très sensibles à ça. Les questions de pédagogie et de pédagogie alternative, notamment, nous intéressent beaucoup. On reviendra là-dessus de toute manière à un autre moment parce que j'aimerais effectivement inviter d'autres personnes qui ont, par exemple, été des praticiens ou des praticiennes avec des méthodes, que ce soit Montessori, Steiner ou des choses comme ça. Mais alors, voilà, de ton côté, qui êtes-vous, cette équipe qui avait créé ce site internet et ce projet? Il y a toi et tu as accompagné d'autres personnes?
Oui, alors nous sommes cinq à ce moment. Dans l'équipe, il y a des mamans, il y a des éducatrices ou des personnes qui sont tout simplement intéressées par l'éducation. Donc, ce n'est pas une obligation de travailler avec les enfants, de faire partie de l'équipe. D'ailleurs, s'il y a des personnes intéressées de se joindre à nous, ils sont très bienvenus. Parce que pour l'instant, c'est tout nouveau. C'est un peu deuxième vague d'un grand projet parce qu'une éco-crèche en forêt, on a déjà créé une. Là, c'est, on n'a pas besoin de parler ça, ça n'a malheureusement pas abouti. Ça durait 2 ans. Donc maintenant, il y a deuxième équipe, ça fait quelques mois seulement. On est bénévole, donc.
D'accord.
On est toujours ouvert donc, ouais, à accueillir d'autres personnes.
Alors, ça, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que vous, toutes et tous qui êtes dans cette équipe-là et qui allez produire, créer l'éco-crèche. Vous êtes actuellement bénévole. L'idée, c'est de le rester bénévole ou d'en faire un métier salarié?
Alors, de tout ce qui est la mise en place, on souhaite créer une association où le comité restera bénévole parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est par la loi comme ça. Mais bien évidemment, les personnes qui vont après travailler dans l'éco-crèche en forêt, elles seront salariées comme dans les crèches classiques.
Oui.
C'est les mêmes tarifs.
Les mêmes conditions et éco-crèche, voilà. La même grille tarifaire, ok. Dis-moi, comment en êtes-vous arrivé à ce constat de dire, voilà, il faut créer quelque chose parce que quelque chose manque. Est-ce que c'est vous-même, parce que des papas et des mamans que vous êtes ou que vous avez côtoyé ont fait le constat que quelque chose manquait ou que quelque chose ne fonctionnait pas comme, en tout cas, bien pour eux, comme ils l'entendaient. Voilà, comment ce processus est né?
Alors, je vais peut-être très très loin où c'était né. Je pense que c'était né déjà quand moi j'étais petite. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature. Après, quand j'étais un peu plus grande, adolescente, j'étais animatrice en colonie vacances, encore en République tchèque, que je n'ai pas dit, mais vous entendez mon accent, donc vous avez bien deviné que je ne viens pas d'ici, même si ça fait 15 ans que j'habite dans le coin. L'accent va rester. comme il va aussi rester l'enfant en moi qui a passé beaucoup de temps dans la nature, en colonie de vacances, l'été pendant les études, où je me sentais très bien et j'ai vu que les enfants, ils adoraient ça aussi. J'étais vite confrontée à contraire absolu dans les structures officielle d'éducation, parce que j'ai travaillé à Prague comme enseignante. J'ai travaillé aussi aux États-Unis, en France. Donc, c'est pas juste à Genève qu'il y a un problème. C'est le manque de la nature, non seulement dans les institutions, qui sortent très peu, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour cela, mais aussi dans la vie. Hors l'école, après l'école, les enfants font beaucoup d'autres choses que aller juste courir dans la nature et creuser des trous avec un bâton.
Et alors ça, comment tu l'expliques? Est-ce que c'est parce que de plus en plus de monde s'agglutine dans des grands centres urbains et que donc il manque des espaces verts? Ou est-ce que c'est parce qu'on a quelque part toujours un peu peur ou qu'on se méfie un petit peu de la nature? Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant dans la nature? Voilà, selon toi, il y a peut-être un peu des deux.
C'est les deux, c'est absolument les deux. L'architecture, on fait c'est une grande faute à l'architecture urbaine, qu'il y a moins en moins de verdure. Il y a aussi la voiture qui est omniprésente. Donc, on a plus en plus peur de laisser l'enfant aller juste, de traverser la route et aller dans un parc qui existe, mais... On doit l'accompagner, l'enfant. Et la nature sauvage que moi, j'ai vécue quand j'étais petite, bon, j'ai grandi dans une petite ville, mais quand même, juste laisser les enfants partir, passer l'après-midi ou toute la journée samedi dans la nature, il y a peu d'espace pour ça. Et il y a la grande peur liée surtout en distance, que l'enfant va trop loin ou il doit prendre un bus pour aller dans la nature, ou le danger de la voiture qui est réel, est vraiment, c'est un grand danger. Là, déjà, route de Lyon, même moi, j'ai peur de traverser la route.
Le chemin pour aller, c'est effectivement ça qui souvent, même si on voit qu'on essaie de s'organiser, des pédibus s'organisent et des routes accompagnées. On voit maintenant les petits-enfants avec leurs gilets fluo, mais c'est vrai que ça reste, j'imagine, problématique. D'accord. Est-ce que vous avez déjà... Alors, on va doucement arriver au projet d'éco-crèche, mais avant qu'on y arrive complètement, j'aurais encore voulu savoir, ce qui va devenir une association, est-ce que vous avez déjà un petit peu interrogé, questionné des adultes, des parents en disant, mais comment vous voyez notre projet? Est-ce que vous en voyez des failles auxquelles on pourrait d'ores et déjà répondre, corriger? Est-ce que vous avez déjà un petit peu pris la température des gens autour de vous?
Alors, pour utiliser la même métaphore de température, les parents sont absolument chauds pour le projet. Moi, personnellement, les derniers 6 ans, j'ai travaillé dans les structures où les sorties en forêt étaient célébrées. Ils étaient permis, parce qu'en général, c'est interdit. Et les derniers 2 ans, j'ai travaillé dans une éco-crèche en forêt que j'ai créée. Que la suite, on peut en parler plus tard si vous voulez. Mais, donc, j'ai déjà testé. Et puis, en mettant ce projet en place... ça s'appelait la bicyclette, peut-être vous avez entendu. On a fait un questionnaire en ligne. On a créé un questionnaire où on avait 700 réponses environ. Et là, c'était vraiment... on ne s'entendait déjà pas autant de réponses et autant de réponses positives. Donc, les parents étaient très motivés d'y inscrire les enfants. Et on a aussi mis « Qu'est-ce que vous pensez que... peut être mauvais pour l'enfant. Mmh. Donc, on a mis des options. C'est le froid où l'enfant va se salir. Mais ils étaient vraiment... Ils ont dit, mais ça ne nous dérange pas du tout. On va bien les habiller parce qu'il n'y a pas de mauvais météo.
Il n'y a pas de mauvais temps. Il y a juste de mauvais équipements.
Donc, déjà pour la nouvelle crèche, on n'a même pas créé une association. On n'a même pas un lieu. Bon, on a quand même quelques-uns en vue. On a déjà 50 d'inscriptions.
Ah d'accord, oui, donc c'est un succès.
Et c'est prévu pour la rentrée 2019. Donc
il peut y en avoir encore beaucoup.
Donc maintenant, c'est les bébés qui vont grandir. Les parents, ils ont calculé que les enfants doivent grandir. Donc l'intérêt est immense. Vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls qui nous ont déjà contactés.
Ah bah tant mieux.
Pour les entretiens et... Donc c'est
un succès qui est garanti, oui. Peut-on dire. Si jamais des questions surgissent dans le studio, hein, vous n'hésitez pas à prendre le micro. Il s'agirait de quelle tranche d'âge pour les enfants? Ça irait de quoi, 0, 4, 0, 6?
Alors, nous souhaitons accueillir des enfants à partir de 2 ans jusqu'à l'entrée à l'école. À partir de 2 ans, pour deux raisons. Une, l'enfant doit quand même être déjà capable de marcher un peu, d'être en début de l'autonomie, et c'est aussi des questions d'autorité qui pour des raisons tout à fait justifiées, laissent pas les bébés aller dans la nature en hiver, il fait très froid.
Oui.
Mais ça se fait dans les pays scandinaves, d'ailleurs c'est là où je me suis inspirée, où les enfants sont accueillis, il y a des crèches où les enfants sont mélangés de 0 à 7 ans, parce que là-bas ils commencent plus tard avec l'école. Heureusement pour eux, et ça se passe super bien. Mais en Suisse, on n'est pas encore là, donc on se contente de 2 ans jusqu'à l'entrée à l'école.
Très bien. Alors, tu nous l'as dit, les premiers cercles que vous avez contactés ou qui vous ont contactés, eh bien, sont très preneuses et très preneurs de ce projet. Donc ça nous ravit de l'entendre. Voudrais-tu dire quelques mots de, selon toi, la manière dont tu constates parmi les personnes que tu fréquentes, si le rapport à la nature a changé et quel est-il ce rapport à la nature que peuvent développer les parents, d'une part, et les enfants? Est-ce qu'on constate encore maintenant peut-être une envie de retour à la nature un petit peu ou pas tant que ça? Est-ce qu'on a quand même un regard en disant oui, la nature c'est bien, mais pas trop, il faut que ce soit une nature, disons, sous contrôle et pas une nature sauvage, hein, tu vois, est-ce que c'est un jardin vraiment aménagé ou justement pas? Et de la même manière, est-ce que tu sens que du côté des enfants, il y a toujours cette envie de découvrir, cette curiosité un petit peu naturelle et puis cet émerveillement quand on voit des petits animaux, quand on voit d'autres collègues mammifères qui s'ébattent dans la nature, est-ce qu'on voit de la curiosité chez les enfants ou des enfants très urbanisés, est-ce qu'eux aussi se disent non mais... Déjà, un poisson, ce n'est pas un poisson qui nage, c'est un poisson pané.
Alors, ta question était très longue.
Oui, excuse-moi.
Donc, j'essaie de résumer. Alors, tu parles de... je ne vais peut-être pas répondre à tout, mais tu parles de réveil...
Éveil ou...
Émerveillement. Émerveillement.
Oui, émerveillement.
Je ne suis pas francophone, désolé.
Non, mais il n'y a aucun problème.
De l'enfant, mais qui est absolu. Les enfants qui vont dans la nature, ils oublient que la ville existe. On leur dit pas, va jouer avec ci, va jouer avec ça. On leur dit pas, maintenant on va faire telle activité. Ils y vont. Et tout d'un coup, il oublie que l'adulte est là. Ça m'arrivait une fois, on était à la forêt avec les enfants, où une petite fille vient vers moi et dit « Ah, t'es encore là, toi ?» Je ne s'est pas rendu compte que j'étais responsable d'elle, ouais. J'étais quand même au travail. Donc, et puis, ce n'est pas que émerveillement, je vais éviter ce mot, des enfants, c'est aussi les adultes. Tout à l'heure, ce matin, j'étais en cours de compost en jardin de délices. Et il y avait des adultes. Et puis, le monsieur, il nous a montré des petites bêtes qui sont bien pour le compost. Et puis, c'était aussi les adultes qui étaient « Ah, Berk, ce truc !» Donc, c'est aussi l'adulte et oui. Toujours l'enfant. En fait, la différence est très grande, très petite. La nature, on est toujours attiré par ça. Oui. On sait, déjà, derrière vous, vous avez une photo de la nature magnifique. On voit le lac, on voit les montagnes et on est émerveillé. Donc, c'est toujours là. Ouais. Si un jour on va perdre ça, c'est la fin du monde.
C'est la fin du monde, absolument. Donc, ça veut dire que selon toi, assez facilement, on pourrait réenchanter les vies des enfants et également ceux des parents en allant dans la nature, en réinvestissant la nature sauvage et en quittant un peu cet urbanisme excessif, cette architecture prégnante, un petit peu ombrageuse comme ça qui nous encercle.
Absolument, c'est pas qu'on pourrait, qu'on doit. qu'on doit. Alors, c'est tellement simple. On va en parc, on va dans la nature, en forêt, on prend le vélo, on prend le bus, le train. Ça coûte 2 francs. Si on a des mitaries, 3 francs, et on est là, on est vite là. Et tout est en fait gratuit aussi dans la nature. On essaye d'acheter les meilleurs jouets aux enfants, leur proposer des animations compliquées, aller au cirque, aller aquapark, des choses comme ça qui sont très bien. Mais la nature, non seulement qu'elle est extraordinaire, mais il y a tout ce qu'il faut et c'est gratuit. Et puis ça sent bon. On peut toucher tout, c'est vraiment extraordinaire. C'est pas pour rien qu'on utilise aussi la nature comme un remède, déjà les tisanes et tout ça, mais pour les personnes qui ont des problèmes psychiques, on les amène dans la nature parce qu'on sait que la nature guérit, donc ça, y a rien à inventer. C'est tout est là.
Ouais. C'est un champ de découverte et d'expérimentation infini, finalement, pourrait-on dire. Alors, je le rappelle, le site internet, c'est www.education-durable.eco. Là-dessus, on y trouve tout ce que vous proposez, les services proposés, les valeurs de l'équipe, l'équipe en elle-même, le contact, si jamais on veut parvenir jusqu'à vous. Et puis, l'éco-crèche, à propos de laquelle nous allons parler maintenant, juste après que je te pose cette dernière question pour cette première partie de l'entretien. Quelles sont selon toi, à l'aune de ce projet d'éco-crèche, les vertus principales de la nature? On a bien compris jusqu'à maintenant qu'en tout cas, ça nourrissait les imaginaires. Certainement, on a parlé d'émerveillement, de réenchantement. Selon toi, voilà, s'il fallait, par quelques mots-clés, énoncer les vertus d'une éco-crèche en nature, quels seraient-ils ces mots-clés?
Alors, si je dois parler des vertus de la nature...
T'en as pour un moment.
Justement, je dois m'excuser que tous les autres qui vont venir n'ont pas du tout place pour parler jusqu'à 17h, parce qu'il y en a tellement, mais c'est juste extraordinaire. C'est tout ce qui est la motricité fine et globale, le déplacement, la manipulation des petits objets, tout ce qui est sensoriel, on peut... Regarder, sentir, on peut sentir le vent, on peut sentir le chaud de soleil. Vous dites peut-être c'est banal, mais l'enfant qui est enfermé à l'intérieur avec des rideaux fermés, il ne le sent pas. Donc, toucher la neige, écouter les oiseaux, goûter des choses.
Bien sûr.
Donc, ça touche en fait tout. Les enfants qui se retrouvent dans la nature, ils prennent tous les objets qui sont là. Bon, même s'ils sont pas la nature, ils prennent des objets. On le sait bien. Et c'est en fait la différence, c'est que c'est pas prédéfini. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce objet? Donc l'enfant prend un petit caillou et puis c'est dans sa tête, dans cette imagination qui a pas de limite, que l'enfant invente le jeu seul ou avec des autres. Donc le petit caillou peut changer le rôle à la fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup d'entraide entre les enfants parce qu'ils ont, par nature, envie de déplacer les grands objets aussi. Et puis, ils se rendent vite compte que c'est lourd. Donc, ils font ça ensemble. Ou pour creuser un grand trou, il faut être à plusieurs. Donc, c'est vraiment la nature. Il y a tout ce qu'il faut.
Beaucoup de mécanismes qui sont touchés, et également effectivement la sociabilisation, puisque la coopération et l'entraide vont faire que les enfants se rencontrent, interagissent et justement collaborent entre eux. D'accord, donc effectivement, on peut à peine imaginer tout ce qui peut sortir de l'observation que l'on ferait d'enfants laissés comme ça, enfin laissés en guillemets, hein, mais en tout cas amenés dans la nature sauvage. Ok, alors je te propose qu'on passe maintenant un petit son rapidement, comme ça on reprend notre souffle, et puis on parlera du projet spécifiquement de l'éco-crèche en forêt, si ça te va comme ça. À moins que des questions aient cours, alors il y a encore une question de Philippe. Alors,
non, c'est pas vraiment une question, enfin, c'est une confirmation de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une maison qui était en dehors du village, à côté d'une rivière et d'une forêt. Et les soucis de mes parents, c'est qu'ils me perdaient des fois, parce que je partais le matin. Et je partais toute la journée en exploration dans la forêt. Et je me trouvais des petits coins sympas où je me sentais bien. Je me disais c'était chez moi. Et puis que je me promenais et je regardais le ciel, je regardais les arbres, je regardais. Il y avait des petits coins, il y avait une petite clairière comme ça où il y avait comme une espèce de tapis de mousse. Enfin, pour moi, je trouvais ça le grand luxe, quoi. Je me prenais pour Dieu quand j'étais là au milieu, tranquille, peinard. Ou alors je remontais la rivière, etc. J'essayais de voir si je voyais des poissons, si je voyais plein de choses. Voilà, quoi, la nature, même en solitaire, peut être une compagne bien réconfortante, quoi.
Absolument. Et il est vrai que lorsque l'on observe, hein, par exemple, des enfants dans une ludothèque en ville, eh bien, des fois, ils sont presque surstimulés, trop stimulés, alors que les enfants ont besoin de moments de contemplation, des moments d'apaisement solitaire où ils observent entre la rêverie et la réalité et où ils sont dans ces moments un petit peu d'entre-deux où ils sont très bien et il vaut mieux les y laisser. D'ailleurs, ça leur fait beaucoup de bien. Petite pause musicale et puis on revient pour parler de l'éco-crèche. On y va à la technique. Aujourd'hui, c'est Igor, c'est la classe.
Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock. When I get shocked at the hospital by the doctor, when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Yay! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on this, come on your lips, pop that, come on your lips, and come on your tits and get ready. About to get happy, I just settled on my lawsuit. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, their parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, cause someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, it's start a revolution, balloon air. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids is a nesting.
Testing, attention please.
Feel attention, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A new sense, who sent? You sent for me? Now this is
Harlem Shake.
Je nage dans la Seine, tout d'un coup j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête et là je me réveille.
Libre Radio, la radio qui rêve. www.libradio.org.
C'était pour savoir si les micros étaient fermés ou pas. Igor à la technique. Alors, nous sommes de retour en direct et en public depuis notre studio 99 en compagnie de Victoria Skvarkova. Je l'ai eu.
Parfait.
Yes, je l'ai eu. Je le dirai pas une deuxième fois parce que je vais l'écorcher. J'ai pas envie de l'écorcher. Alors, on l'a dit, tu es enseignante, éducatrice. Tu as pas mal voyagé puisque tu as travaillé notamment à Prague, mais également aux États-Unis. Un petit peu en France également, si j'ai bien compris. Et puis, et tu es maintenant à Genève depuis une quinzaine d'années. Alors, ce projet d'éco-crèche dont on va parler maintenant, est-ce qu'il est né au même moment que cette notion d'éducation durable que vous avez voulu comme ça faire surgir, ou est-ce qu'il est né après? Est-ce qu'il est le fruit des discussions des cinq personnes, ou c'est ça qui vous a amené à vous rencontrer?
Alors, l'idée, c'était un coup de foudre. C'était le 24 janvier 2012 où j'ai eu l'idée, en fait, d'ouvrir Éco-crèche en forêt. Comme ça, je me suis inspirée par... Il y avait plusieurs éléments qui ont mené vers cette décision. C'était à la fois le fait que là où je travaillais, les sorties étaient très rares, et si c'était une sortie, c'était pas forcément dans la nature. Et en même temps, juste avant, il y a une copine de Prague qui m'a parlé de sa fille qui était inscrite dans une crèche en forêt et qui adorait ça. Donc j'ai mélangé les deux idées et puis je me suis dit, mais c'est génial en fait, je veux travailler dans une crèche en forêt. Donc j'ai d'abord cherché si une crèche existait à Genève. Et j'ai cherché jusqu'à 3h du matin, je n'ai pas trouvé. La plus proche que j'ai trouvée, c'était à Zurich, qui était d'ailleurs la seule qui était aussi en anglais, le site internet, je ne parle pas allemand. Mmh. Donc je suis tout de suite allée rendre visite à l'équipe de cette crèche, et puis je me suis dit, mais il faut absolument créer une crèche comme forêt à Genève.
D'accord. Alors, il y a les trois mots, éco, crèche et en forêt. Et forêt. Oui. Voudrais-tu justement les parcourir, ces trois mots, pour qu'on puisse fabriquer et puisse comprendre mieux ce projet?
Alors, le mot éco, c'est un peu évident. Ça, j'ai ajouté, il y a un label qui s'appelle Écolo Crèche en France. Je me suis dit, c'est trop long. Et puis, en plus, c'est un label, donc il faut voir des choses aussi légalement. Donc, éco-crèche, donc, c'est la notion de développement durable. Crèche, ça montre que c'est pour les enfants préscolaires. Mm-hmm. Et puis, en forêt, c'est aussi évident que ça se passe en forêt, dans la nature. Donc, je me suis inspirée par les crèches en forêt, ou Forest Kindergarten, mm-hmm. qui existent partout dans le monde, au Japon, au Canada, en Espagne, mais le mouvement a commencé dans les pays nordiques. Il y en a beaucoup aussi en Allemagne et en République tchèque. Il y a maintenant une grande vague de ce genre de crèche. Le mot éco, donc c'est le développement durable. Il y a très peu d'institutions que j'ai trouvées qui existent, qui sont vraiment écologique jusqu'au bout. Et je me suis aussi inspirée par des écoles démocratiques et des écoles Sudbury. La plus connue école démocratique, c'est Summerhill, qui va bientôt fêter 100 ans.
Oui, on rappelle le livre « Libres enfants » de Summerhill.
Je l'ai amené même pour
qui est fantastique.
Donc, c'est la notion de la liberté. Là, j'ai mis dans le nom de la crèche, Éco-crèche en forêt précédente, la bicyclette, c'était dans le mot la bicyclette, la liberté.
Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, très concrètement, quel est l'agenda ? Donc, actuellement, le projet existe, il est dans vos têtes, et maintenant, il va falloir le concrétiser. Alors, si j'ai bien compris, l'idée, c'est déjà de monter une association. Et puis ensuite, quelles sont les étapes à venir ? Parce que, a priori, c'est à l'aune 2020.
2019.
Non, pardon, 2019, à la rentrée 2019, qu'elle devrait être, qu'elle sera opérationnelle.
Exactement.
D'accord.
Donc, puisque j'ai déjà fait ce travail, j'ai déjà mis en place une crèche comme ça, ça sera beaucoup plus facile parce que maintenant, on sait comment faire. Donc, je ne vais pas dire tout dans l'ordre, mais les éléments à collecter, c'est trouver un lieu, trouver des enfants qu'on a déjà, l'équipe... les éducatrices, donc, les financements, construire une roulotte, construire un canapé forestier. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est une espèce de banc qui est rond, grand, qui peut accueillir une vingtaine de personnes. Au milieu, il y a un foyer, donc on peut faire un feu pour se réchauffer. Et puis, il y a un mur construit du bois, qui fait à peu près un mètre pour justement couper du vent et puis être plus au chaud. Et chaque enfant aura un bio devant soi qui va remplacer une petite table. Donc là, les enfants pourront manger. Donc canapé forestier, roulotte et des toilettes sèches. Donc
c'est infrastructure.
Ouais. Et après, bien sûr, les autorisations de plusieurs instances, tout ce qui est l'hygiène, sécurité, la petite enfance, service des forêts, et la liste est longue.
La liste est longue, ouais.
Aussi, assurer l'alimentation, donc le repas de midi, donc soit cuisiner sur place, ce qui est le rêve absolu, ou bien avoir un traiteur correct, c'est-à-dire bio, local, de saison et végétarien, qui... pour l'instant, n'existe pas à Genève.
Ah, ben voilà. Alors justement, si l'on pouvait lancer un appel ou des appels ici à la radio pour des besoins dont vous auriez, pour vos besoins, alors, lesquels seraient-ils ? C'est avant tout l'urgence, c'est avant tout le lieu ou c'est également d'autres choses ?
C'est également d'autres choses. Mmh. Sur les lieux, on a déjà des contacts avec plusieurs institutions ou des privés qui sont
d'accord parce que le loup... prêts,
soit ils sont déjà prêts à nous accueillir ou ils sont en train de réfléchir. On est en train de négocier et communiquer avec plusieurs personnes.
Ok, parce que j'imagine que le lieu, enfin il y a une stratégie à avoir par rapport à ça. Il faut qu'il soit quand même accessible et en même temps relativement reculé puisque l'idée c'est d'être quand même en pleine forêt.
Exactement. Donc la forêt doit être soit en pleine forêt. Où ça doit être juste à côté de la forêt, où on peut installer la roulotte et où on peut aussi déplacer en TPG, idéalement, en train ou en bus. Et on aura besoin aussi, à proximité, une maison dure qui peut servir comme un abri s'il y a une tempête violente ou s'il fait moins 15 degrés. Parce que la roulotte, quand même, peut accueillir les enfants s'il fait... 0 degré, et les enfants ont très froid, ils sont mal habillés, ils peuvent aller dans la roulotte, elle sera chauffée.
D'accord. Et alors, quels seraient les temps d'accueil ? Comment ça va se passer ? Donc, les parents inscrivent leurs enfants, comme dans une crèche classique, mais après, les horaires, comment ça se passe ? Est-ce que, voilà, il y a un horaire du matin, il y a des week-ends aussi, ça pourrait être ouvert, et ensuite je t'interrogerai par rapport au programme qui pourrait être proposé. Mais voilà, en termes d'horaire, comment est-ce que ça se passerait ? À quel moment les enfants seraient-ils accueillis ?
Alors, c'est différent. Bon, il y a déjà beaucoup de différences par rapport aux crèches, crèches classiques. Donc, les horaires sont plus ou moins de 8h jusqu'à 15h. Pourquoi ? Parce que, bon, les journées comme aujourd'hui, c'est super. On peut rester jusqu'à 20h. Mais en hiver, c'est quand même assez physique, même si on est bien habillé. Il fait froid, il y a l'humidité, et les enfants, c'est des tout petits. Donc, ça, je vais enchaîner du coup pour le programme. Mm-hmm. Donc, en gros, le matin, ça se passe dans la nature. Je vais dire après les détails comment ça se passe. À midi, un repas de midi, il y a la sieste dans la roulotte et c'est fini. Parce que remettre les habits,
ouais, ouais,
quand même mouillés, même si c'est de bonne qualité et tout, et revenir dans la forêt toute l'année, c'est pas possible. Justement, j'ai étudié ce élément pendant plusieurs années. Je me suis informé comment ils font ailleurs. Il y a même des crèches qui ferment à 14 heures. Donc c'est comme ça. Les parents sont informés avant, donc ils savent que c'est pas une crèche classique. Il y a plein d'avantages, mais ça, la fermeture à 15 heures, ça peut être un grand désavantage. Mais bon, c'est...
C'est comme ça.
C'est comme ça.
Ouais, c'est comme ça. Puis effectivement, comme tu dis, c'est le moment de juste après la sieste. C'est compliqué de remettre en route. C'est également pour des raisons extrêmement pratiques. Et ouais, tout à fait. Et concernant les groupes d'enfants, alors comment ça va se passer? Est-ce que l'idée, c'est d'avoir des groupes du même âge, des groupes d'âge différents et des groupes de combien d'enfants? Tout ça, vous savez déjà ou ça reste encore à définir?
Alors, c'est tout petit. C'est jusqu'à 16 enfants. Donc, une crèche, c'est vraiment 16 enfants. Mmh. Pourquoi? Déjà, aller avec 60 dans la forêt, c'est pas très pratique, même s'il y a assez d'adultes. Mais ce qui est, déjà, la roulotte aussi, elle ne peut pas accueillir beaucoup d'enfants. C'est exprès parce que sinon, il faut construire une maison. Et ça, on ne veut pas, pour des raisons dans lesquelles je vais parler plus tard, liées au développement durable. Et c'est aussi l'importance de connaître les enfants, les fratries, les parents, les grands-parents, les chiens qui viennent parfois amener les enfants à la crèche, tout le monde, parce que c'est le monde dans lequel l'enfant y vit et dans lequel il est lié. Donc, on ne peut pas juste le couper de ce monde, on doit le connaître. C'est aussi ça important pour la qualité de travail de l'éducatrice ou de l'éducateur.
Oui, tout à fait. Je vous rappelle, hein, si des questions surgissent, n'hésitez pas à vous saisir d'un micro. On le rappelle, le site internet, c'est www.education-durable.eco. L'éco-crèche en forêt, eh bien, c'est un projet opérationnel donc, qui va débuter. On peut dire que ça c'est sûr, c'est confirmé quasiment.
Rien n'est sûr, mais on fait tout pour.
OK, donc ce sera là en 2019.
À la rentrée.
À la rentrée 2019. Les inscriptions, tu as dit qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui s'était inscrit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de s'y intéresser? Des inscriptions sont encore possibles? Y a-t-il d'ores et déjà une liste d'attente? Comment est-ce que vous allez gérer ça?
Les inscriptions sont encore possibles. C'est des pré-inscriptions. On peut, comme on n'est pas encore sûr, on n'a pas encore eu des autorisations, mais on y croit absolument. On ne peut pas promettre, donc ce n'est pas des promesses. Ceux qui ont déjà préinscrit l'enfant, ce n'est pas garanti qu'ils auront la place. Mais dans l'autre côté, nous, on n'est pas sûr qu'ils vont vraiment venir. Parce que plein de choses peuvent se passer dans la vie de la famille. Ils changent d'avis ou ils se rendent compte que c'est trop loin. Ils déménagent. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, ils peuvent encore s'inscrire. Il y a un formulaire sur notre site.
Sur le site, d'accord.
Donc, à la fois, cette préinscription les engage à rien. Mais ça ne nous engage à rien non plus.
D'accord, ouais.
C'est vraiment c'est quand même le principe premier arrivé, premier servi.
Ok. On peut également dire que sur le site internet, eh ben, on trouve des photos. Voilà, avec notamment les bios, les enfants qui sont attablés comme ça. Enfin, on voit quelques photos qui peuvent suggérer ce qui s'y passera. Et c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir déjà un petit peu comprendre et un petit peu voir plus loin. Voilà, ce concept qui est tout à fait singulier et que certainement beaucoup de personnes ignorent encore. Alors, est-ce que pour aller plus loin, si les personnes s'intéresseraient à cette notion d'éducation durable et tout, y aurait-il sur le site où toi, peut-être, Victorien, recommanderais-tu la littérature, un livre ou l'autre, ou des choses comme ça que les personnes pourraient lire pour pouvoir se renseigner un petit peu plus en avant?
Oui. Alors, je suis même venue équipée, mais malheureusement,
super.
Vous ne pouvez pas voir. Mais...
Non, mais on va les citer.
Alors, la liste est longue. On met régulièrement des articles et des liens sur notre page Facebook avec le même nom, Éducation durable. Et on a un document Excel avec des articles, des noms des institutions, des livres, des émissions radio, des vidéos, plein de choses comme ça où on est prêt à partager parce que c'est important que les personnes qui s'intéressent à ça que peuvent élargir les connaissances ouais. Parce que nous, on n'a rien inventé, c'était déjà écrit, c'était déjà dit que la nature est bien bonne pour l'enfant, donc on s'inspire.
Ouais, d'accord, je comprends bien. On arrive doucement au terme de cet entretien. Alors, de nouveau, hein, si des questions surgissent, n'hésitez pas. Moi, j'ai envie de te poser encore cette question-là. J'ai bien compris que les gens venaient vers vous, que vous n'avez plus vraiment besoin de les solliciter. Mais admettons que, voilà, je suis un père de famille, j'ai 5 enfants. Je m'en sors...
Félicitations.
Mais je te remercie. Je le dis pas parce que j'en suis pas si fier que ça, parce que voilà, le plus grand il me fait des problèmes, le plus petit gna gna gna, puis l'autre est malade, tout ça, les choses de la vie finalement. Qu'est-ce que tu me dirais, pourquoi est-ce que je viendrais, pourquoi j'inscrirais mes enfants à l'éco-crèche en forêt plutôt que, je veux dire, les tout petits là qui me posent problème, il y en a un qui est toujours malade, il y en a un qui est fragile, pourquoi est-ce que je viendrais à l'éco-crèche en forêt alors que bah, en ville, bah, y a les médecins pas loin, y a les infrastructures pas loin, tout ça.
Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la nature, c'est un remède pour tout. Ça guérit tous les problèmes psychiques, les problèmes physiques. D'ailleurs, par rapport au fait que l'enfant soit tout le temps malade, on sait qu'il y a des études qui étaient faites par rapport à ça. Plus on passe le temps à l'extérieur, plus notre système immunitaire se prépare pour le froid, le chaud. On arrive mieux à gérer notre température que rester dans une salle où la température est tout le temps la même. Mm-hmm. Dès qu'on est dehors, on doit, le corps doit s'adapter. Donc, ouais. Et puis, une chose que je n'ai pas dit, mais, et ce n'est pas évident pour tout le monde, ce n'est pas que seulement l'enfant qui il s'amuse bien, il adore être dans la nature, mais c'est aussi pour les adultes. L'adulte, les personnes qui travaillent avec les enfants dans la nature, il adore ça parce que c'est aussi, tellement bien.
J'imagine que là aussi, un rapport spécial s'installe entre le professionnel et puis les enfants qui sont autour de lui. Très bien. Y aurait-il une question à laquelle je n'ai pas pensé et à laquelle tu aurais souhaité répondre ?
J'ai pas beaucoup parlé de côté développement durable.
Voudrais-tu ?
Si on a encore le temps.
Mais on a tout le temps qu'il faut.
Alors, oui, jusqu'à 17h. Désolé pour les soucis.
David, notre prochain invité, est là et puis il nous fera les gros yeux au moment où il s'impatientera.
Et puis le programme aussi.
Allons-y.
Donc le côté de développement durable, donc j'ai pas beaucoup décrit l'infrastructure, surtout parce qu'il y a pas beaucoup. En fait, le canapé forestier s'est fait en bois, très simple, qui pour la dernière crèche était fournie par les services des forêts. Merci. Toilette sèche qui économise l'eau, j'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde comprend. Et la roulotte qui a ni électricité ni l'eau courante pour une raison très simple qu'on n'a pas besoin. Donc c'est aussi la notion de décroissance. On utilise seulement ce qu'on a besoin. Et puis si on est là jusqu'à 15h, on n'a pas besoin d'électricité. La roulotte sert que pour faire la sieste et on n'a pas besoin de lumière. L'eau courante, chaque enfant amène sa gourde avec l'eau de la maison. Et puis, pour se laver les mains, c'est des petites quantités donc, qu'on peut obtenir autrement. Y a aussi le fait que, bien évidemment, on aimerait avoir jardin potager pour petit à petit aller vers l'autosuffisance et puis montrer aux enfants que... c'est possible
de cultiver et de voir l'évolution des plantes qui grimpent, qui naissent et qui mûrissent.
Oui, et c'est aussi en vivant au quotidien avec les gestes de développement durable qui se font en début que par les adultes. Les enfants les imitent et les observent. C'est comme ça les enfants apprennent. Il n'y aura pas des leçons, des classes. Aujourd'hui, on va apprendre à trier des déchets. On va tout simplement, déjà, avoir très peu de déchets. Et si on les a, on va les trier de façon naturelle. Mmh. Et les enfants, ils vont juste suivre le mouvement. Ils ne vont pas avoir des cours de tri de déchets. Ouais. J'enchaîne pour le fait qu'il n'y aura pas de cours, pas d'activité. C'est la notion de la liberté. Il y a certaines personnes qui appellent ça jeu libre, jeu autonome, pédagogie active, pédagogie par action. Moi, j'appelle ça la liberté. donc la matinée va se passer dans la nature tout simplement, où les enfants vont jouer comme ils veulent. Il y a juste un encadrement très simple. L'enfant doit toujours voir l'adulte. Donc, par le principe, si l'enfant voit l'adulte, l'adulte voit l'enfant. Et c'est le travail des éducateurs et éducatrices de les surveiller. Mais ce n'est pas l'adulte qui va amener des idées de jeu. Parce que les enfants, parce qu'ils sont des enfants, ils ont les meilleures idées. Donc, l'adulte est là juste pour l'accompagner, l'enfant. Mmh. Accompagner l'enfant dans ce qu'il a besoin.
Oui. Et donc, il y a cette notion de liberté, de déambulation libre. Et voilà, c'est la nature qui elle-même stimulera l'imaginaire de l'enfant qui s'arrêtera là ou ailleurs. Et également, alors, on a compris que l'idée, c'est qu'il y a un petit potager, un petit verger. Y aurait-il quelques animaux quand même, plus que ceux, disons, de passage? De passage, je pense à un papillon ou une abeille. Mais y aurait-il peut-être un lapin, un chat ou c'est pas spécialement prévu?
Alors, idéalement, on s'installe près d'une ferme et on pourra profiter de tout ce que la ferme a. Si ce n'est pas le cas, peut-être au moins avoir des poules.
Bah oui. Voilà.
Et puis, il y a toujours le passage des papillons.
C'est ça, mais exactement. Il y a les petits vers de terre, tout ça. Le végétarisme, juste pour en terminer par ça, c'est important pour toi que ce soit qu'il est court. Que ce soit la règle.
Oui, alors après l'enfant, il n'est pas obligé de devenir végétarien, mais il n'aura pas de la viande à la crèche. Il peut très bien manger la viande le soir à la maison ou le week-end. Je n'ai pas dit que le week-end ça sera fermé.
Oui, c'est fait.
Donc ce n'est pas quelque chose, on ne va pas interdire aux familles.
Mais disons que c'est promu.
C'est en lien avec le développement durable. Mm-hmm. Parce que. Par rapport au traitement d'animaux, combien on dépense de l'eau pour les nourrir, etc. Ça,
bien sûr.
C'est tout un sujet, je n'ai pas besoin d'expliquer.
Non, en tout cas pas ici, pas avec nous, mais c'est bien de le dire quand même. Quoi qu'il en soit, on arrive donc là doucement au terme de l'entretien. J'aurais encore voulu te demander, y a-t-il des partenaires déjà particuliers que vous avez sollicités? Je pense, parce que c'est vrai que ce que tu dis, en fait, on y retrouve plein de petites choses de notre passé à nous-mêmes. Moi, c'est vrai que venant du Lignon, donc une zone quand même avec un immeuble de 10 000 habitants, j'étais particulièrement content d'aller au Jardin Robinson, qui est une infrastructure minimaliste aussi, avec des cabanes et tout. Alors, c'est autre chose, bien sûr, mais c'était intéressant aussi. Alors voilà, y a-t-il d'ores et déjà des partenaires que vous avez, des partenaires un petit peu particuliers que vous avez?
Alors, on n'a pas encore des partenaires fixes, on n'a pas des conventions, des contrats avec des partenaires, mais ça fait plusieurs années que je me retrouve dans le monde de la petite enfance et de développement durable. Donc, je les connais. On s'est aussi retrouvés dans le film Demain Genève. Mmh. Il y a tellement d'associations qui font la même bataille avec nous. Mmh. Tout ce qui est alimentation, mobilité. Donc, c'est prévu. La liste est longue. On a déjà la liste, mais on ne les a pas encore contactés parce qu'on n'est pas encore là. Donc, collaboration particulière qu'on aimerait mettre en place avec une institution, on ne sait pas encore laquelle. Ça sera pour fabriquer des produits de nettoyage, les savons et des choses pareilles, avec faire des ateliers en fait pour les employés et pour les parents qui souhaitent pour la crèche. Ou s'ils souhaitent aussi apprendre comment on fait, ils peuvent faire pour la maison. Par exemple, faire le produit lessif avec le cendre, on aura bien la quantité. Ça, c'est aussi éducation, pas seulement, on ne va pas seulement éduquer les enfants, mais aussi
l'éducation
un
populaire,
petit peu
un
les
peu
parents.
Pour tout le monde, ouais.
Voilà, donc
d'accord.
Ça.
Et puis après, je pense que vous ne vous posez aucune limite. Le projet pourra évidemment évoluer et puis on verra ce qu'il donnera.
Alors après, on a beaucoup d'idées, ben, ouais, justement pour le jardin potager. Ce n'est pas forcément des choses qu'on sait faire. Mm-hmm. Permaculture, four à pain, il y a des projets. Après, il y aura école en forêt, bien évidemment. Donc, la liste est très longue. On a plein de listes.
C'est bien. Moi, je note en tout cas ton mail parce qu'avec les ludothèques, on va certainement venir être curieusement regarder tout ça. Je te remercie beaucoup, Victorie, pour d'être venue jusqu'ici pour nous présenter ce projet d'éco-crèche en forêt. Hein, c'est important de le préciser. Donc, on va encore rappeler le site internet www.education-durable.eco. Les besoins, on les a listés. Ce podcast sera disponible sous peu, dans quelques jours, pour que les personnes puissent l'écouter. Et puis, le lien, le contact, je pense qu'ils peuvent passer par le site internet. Ou voudrais-tu encore donner un mail de contact ou un numéro de téléphone? Ou c'est le site internet, tout y est?
Tout y est. On a donc site internet et page Facebook.
Et la page Facebook. Très bien. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Et nous, on va se retrouver parce qu'on prendra des nouvelles.
Merci. Alors, j'ai eu grand plaisir d'être accueillie ici, si chaleureusement, dans ce canapé.
C'est confortable, t'as vu ?
C'est confortable. C'est magnifique.
En général, quand on arrive, on est un petit peu méfiant. Et puis après, en général, on ne part plus. Alors, on va le préciser.
Oui, j'ai pas envie de partir, en fait. Je peux rester.
Mais tu peux rester tout le long de l'émission. On va juste le rappeler. Merci. C'est qu'effectivement, notre studio, le studio 99, est à siège à l'espace quartier du même nom. C'est au Charmy et que le bureau partagé l'est avec une association parmi nos petits chouchous aussi, qui est l'association SOS Enfants. Mais il y a plus de 40 associations qui sont regroupées ici dans cet espace quartier, dont il faut rappeler qu'il a été arraché, mais c'est pas une image. Hein. Il a été concrètement arraché aux projets commerciaux qui avaient cours ici, puisque ça devait être une extension des magasins et que la population locale a dit non, on a besoin d'un espace pour nous. Ceci signifie que ces luttes urbaines, elles ont aussi cours et que toutes ces associations permettent le mieux vivre ensemble. On en est ravis, de pouvoir être siégés ici et puis justement de relayer ces associations. Voilà pour la petite histoire. Merci encore, Victorie. On va faire une pause musicale et puis nous allons passer au deuxième sujet. Mais bien entendu, si tu souhaites rester et intervenir, tu es la bienvenue. Le deuxième sujet, eh bien, c'est l'ADTS, l'Association de défense des travailleuses du sexe. David, bienvenue à toi. Tu vas nous situer ta position par rapport à l'association, bien entendu. Philippe, qui est parmi nous, va certainement intervenir puisque lui-même en fait encore partie. Me semble. Eh ben oui. Donc on va faire une petite discussion comme ça. Au sommaire de l'émission, nous avions annoncé que nous allions parler de la DTS et également quelques mots, évidemment, pour placer la sauce et pour en dire l'actualité, puisque les cafés philo reviennent et qu'on en est ravis. De tout ça, on parlera dans quelques minutes. On le rappelle pour les auditrices, auditeurs, si jamais tu veux questionner nos invités ou juste nous faire un mot d'amour, eh bien, tu passes par la page Facebook, La Comète à la Banane, ou alors le mail info@libradio.org. On y va et on revient.
les larmes pleines de ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tôlière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas. Je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi, ou alors y'a ma donne. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Allez, déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la